mon anniversaire de mariage. Je n'ai pas revu ma femme depuis que nous avons fait l'amour ici à Bruxelles, il y a bientôt un an. Elle ne répond plus à mes lettres. J'ai fait quelques emplettes ce matin. J'ai acheté un pistolet.
J'espère que t'as pris beaucoup de munitions.
Je vais te tuer !
Ça peut pas faire de mal.
Quel est le motif de votre présence à Bruxelles ?
J'espérais que ma femme serait venue m'y rejoindre, comme elle était déjà venue précédemment depuis notre séparation.
Je ne comprends pas que le départ d'un ami ait pu vous jeter dans un tel désespoir. N'existe-t-il pas entre vous et Rimbaud d'autres relations que celles de l'amitié ?
Non.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Je est un autre. J'assiste à l'éclosion de ma pensée, je la regarde, je l'écoute, je lance un coup d'archet, la symphonie fait son remuement dans les profondeurs ou vient d'un bond sur la scène. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant. Car il arrive à l'inconnu. Le poète est voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur. Cette langue sera de la pensée, accrochant la pensée et tirant. La poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant. Ce texte visionnaire est l'œuvre d'un génie, un jeune homme de 17 ans, Arthur Rimbaud. À l'époque, ce fervent lecteur de Victor Hugo ne se doutait pas qu'il écrivait le manifeste de la poésie moderne. Ces quelques lignes sont extraites d'une lettre qu'il rédige le 15 mai 1871 à son ami et poète Paul de Meuny. Cela fait déjà 2 ans que Rimbaud écrit des poèmes. Il a pour projet de révolutionner le langage poétique, ou plutôt de le dérégler, d'en donner toutes les facettes, toutes les couleurs. Il y parviendra, évidemment, et laissera à la postérité des chefs-d'œuvre tels que Une saison en enfer ou encore Les Illuminations. Reste aussi et surtout le mythe de Rimbaud et celui de sa relation passionnée avec le poète Paul Verlaine, de 10 ans son aîné. Il se rencontre à l'automne 1871 et se sépare 2 ans plus tard après une violente dispute. Rimbaud partira sur les routes de l'Orient, et Verlaine, en Belgique, puis en France, va se détruire à petit feu. Parcourons donc les œuvres respectives de ces deux poètes maudits à travers leurs poèmes, bien sûr, mais aussi leurs correspondances. La révolution poétique voulue par Rimbaud commence par la recherche d'une langue complète, universelle et colorée. Voici l'un de ses plus célèbres sonnets, Voyelles, qu'il écrit en 1870 mais qui ne sera publié qu'en 1883. Avec ces quelques lignes, Rimbaud veut inventer la couleur des voyelles. Mais il se place au-delà de la simple théorie des synesthésies qui voudrait que chaque lettre soit associée à une couleur précise. Rimbaud cherche leur forme, leur son, leur parfum. Il cherche les sensations brutes qui émanent d'elles, les images que ces voyelles produisent dans nos esprits. A noir, E blanc, I rouge, Je dirai quelques jours vos naissances latentes. Ah, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre, eux, candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles. I pourpre sans cracher, rire des lèvres belles, dans la colère ou les ivresses pénitentes. U, cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semées d'animaux, paix des rides, que l'alchimie imprime au grand front studieux. O, suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. O, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Un an plus tard, pendant l'été 1871, Rimbaud écrit ce qui demeure encore aujourd'hui comme son œuvre la plus énigmatique, Le bateau ivre. C'est le poème dans lequel se concentre tout le génie du poète. Celui aussi qui intrigue le plus les lecteurs. Nombreux sont ceux qui ont tenté de comprendre ce que Rimbaud a voulu dire. Est-ce un récit d'aventure fantastique? Est-ce une simple succession d'images? Ou est-ce une réflexion métaphysique sur l'existence? Ce qui est certain, c'est qu'il s'est beaucoup inspiré de ses lectures pour l'écrire. Victor Hugo, son maître absolu, Jules Verne et Baudelaire, bien sûr. Rimbaud s'inscrit dans la droite lignée de ces poètes qui rêvaient de liberté. Voici donc Le bateau ivre, lu par un merveilleux acteur que j'ai eu la chance de recevoir il y a quelques semaines, Denis Lavant.
Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteur de blé flamand ou de coton anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus. Et les péninsules, des marées, n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels des victimes, d'inuit, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescent, dévorant les azurs verts où, flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend. Où, teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes, et les ressacs, et les courants. Je sais le soir, l'aube exaltée ainsi qu'un peuple de colombes. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins pareille aux vacheries, hystérique, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables Florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthère à peau d'homme, des arcs en ciel tendus comme des brides, sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses, ou pourris dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses, et les lointains vers les gouffres cataractants, glaciers, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise, échouages hideux au fond des golfes bruns, où les serpents géants dévorés des punaises, choient des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades, et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. Parfois, martyr lassé des pôles et des zones, la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux, montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes, et je restais ainsi qu'une femme à genoux. Presqu'île, ballottant sur mes bords les querelles et les fiantes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds, et je voguais lorsqu'à travers mes liens frêles des noyers descendaient dormir à reculons. Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi, dont les monitors et les voiliers des Hans n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, montée de brumes violettes, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur, qui porte confiture exquise aux bons poètes, des lichens de soleil et des morves d'azur, qui courait tachée de lunules électriques, planches folles, escortées des hippocampes noirs, quand les juillets faisaient crouler à coups de trique les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs. Moi qui tremblais, sans engendre à 50 lieues le rut des béhémotes et des maelstroms épais, fileur éternel des immobilités bleues, je regrette l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or, en future vigueur? Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh que ma quille éclate, oh que j'aille à la mer. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide, où vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner de vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons.
Thank you. n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif sur vos lèvres, alors meurt les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adorer un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.
Je cherche Paul Verlaine.
Êtes-vous Monsieur Rimbaud ?
Oui.
En septembre 1871, Arthur Rimbaud rencontre Paul Verlaine. À cette époque, Rimbaud vit avec sa mère à Charleville. Il a déjà fait quelques fugues pendant lesquelles il s'est rendu à Paris. Il veut découvrir la capitale, écrire dans des journaux et participer à la révolution qui se prépare. Le jeune poète fait déjà preuve d'une grande force de caractère. Il tente de rentrer en contact avec les communards. Il fouille dans les poubelles pour se nourrir. Il dort dans des péniches. Ses expériences nourrissent son écriture. Et il commence à envoyer certains de ses poèmes à Paul Verlaine. Il le contacte par l'intermédiaire d'un ami et lui écrit beaucoup de lettres. Les deux hommes se rencontrent finalement lors d'un dîner dans la capitale, entouré d'autres grands poètes, en septembre 1871. Rimbaud logera chez Verlaine et sa femme, Mathilde. Le début d'une relation destructrice dont témoignent certains poèmes du recueil « Romances sans paroles ». Ce recueil fut rédigé au début des années 70 lorsque Verlaine quitte sa femme pour Rimbaud. Ils vont partir pour la Belgique, puis pour Londres, revenir en Belgique, où ils vont vivre leur amour au grand jour sans pouvoir éviter le scandale. La première partie du recueil intitulée « Harriet oubliée » est consacrée à la période précédant leur départ. Verlaine est partagé entre sa femme et sa passion pour Rimbaud. Commençons directement par la troisième partie du poème. Il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur ? Ô bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure, quoi, nulle trahison, ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Et voici la suite. Il faut, voyez-vous, nous pardonner les choses. De cette façon, nous serons bien heureuses. Et si notre vie a des instants moroses, du moins nous serons, n'est-ce pas, deux pleureuses. Oh, que nous mêlions, âmes, sœurs que nous sommes, à nos vœux confus la douceur puérile de cheminer loin des femmes et des hommes dans le frais oubli de ce qui nous exile. Soyons deux enfants, soyons deux jeunes filles, éprises de rien et de tout étonnées, qui s'en vont pâlir sous les chastes charmilles, sans même savoir qu'elles sont pardonnées. Après plusieurs mois passés ensemble à Londres, Verlaine quitte Rimbourg en 1873 après une violente dispute. Il se rend à l'embarcadère et monte à bord d'un bateau en partance pour la Belgique. Pendant la traversée, il écrit la lettre suivante, une lettre de rupture. En mer, le 3 juillet 1873, mon ami, je ne sais si tu seras encore à Londres quand ceci t'arrivera. Je tiens pourtant à te dire que tu dois, au fond, comprendre enfin qu'il me fallait absolument partir, que cette vie violente et toute de scènes sans motif que ta fantaisie ne pouvait m'aller foutre plus. Seulement, comme je t'aimais immensément, au niçois qui mal y pense, je tiens aussi à te confirmer que si d'ici à 3 jours je ne suis pas avec ma femme dans des conditions parfaites, je me brûle la gueule. Si, comme c'est trop probable, je dois faire cette dernière connerie, je la ferai du moins en brave con. Ma dernière pensée, mon ami, sera pour toi qui m'appelais du pier tantôt et que je n'ai pas voulu rejoindre parce qu'il fallait que je claquasse. Enfin, veux-tu que je t'embrasse en crevant, ton pauvre Paul Verlaine. Le lendemain, Rimbaud n'a pas encore reçu la lettre de Verlaine, mais il décide également de lui écrire. Londres, vendredi après-midi, le 4 juillet 1873. Reviens, reviens, cher ami, seul ami, reviens. Je te jure que je serais bon. Si j'étais maussade avec toi, c'est une plaisanterie où je me suis entêté. Je m'en repens plus qu'on ne peut dire. Reviens, ce sera bien oublié. Quel malheur que tu aies cru à cette plaisanterie. Voilà 2 jours que je ne cesse de pleurer. Reviens, sois courageux, cher ami. Rien n'est perdu. Tu n'as qu'à refaire le voyage. Nous revivrons ici, bien courageusement, patiemment. Ah, je t'en supplie. C'est ton bien, d'ailleurs. Reviens, tu retrouveras toutes tes affaires. J'espère que tu sais bien à présent qu'il n'y avait rien de vrai dans notre discussion, l'affreux moment. Mais toi, quand je te faisais signe de quitter le bateau, pourquoi ne venais-tu pas? Nous avons vécu 2 ans ensemble. Pour arriver à cette heure-là, que vas-tu faire? Si tu ne veux pas revenir ici, veux-tu que j'aille te trouver où tu es? Oui, c'est moi qui ai eu tort. Oh, tu ne m'oublieras pas, dis. Non, tu ne peux pas m'oublier. Moi, je t'ai toujours là. Dis, réponds à ton ami. Est-ce que nous ne devons plus vivre ensemble? Sois courageux, réponds-moi vite. Je ne puis rester ici plus longtemps. N'écoute que ton bon cœur. Vite, dis si je dois te rejoindre. À toi toute la vie, Rimbaud. Le 5 juillet, Rimbaud reçoit enfin la lettre de Verlaine. Il s'empresse de lui répondre. Cher ami, j'ai ta lettre datée en mer. Tu as tort cette fois, et très tort. D'abord, rien de positif dans ta lettre. Ta femme ne viendra pas, ou viendra dans 3 mois, 3 ans, que sais-je. Quand t'as claqué, je te connais. Tu vas donc, en attendant ta femme et ta mort, te démener, errer, ennuyer les gens. Quoi, toi, tu n'as pas encore reconnu que les colères étaient aussi fausses d'un côté que de l'autre? Mais c'est toi qui aurais les derniers torts, puisque même après que je t'ai rappelé, tu as persisté dans tes faux sentiments. Crois-tu que ta vie sera plus agréable avec d'autres que moi? Réfléchis-y. Ah, certes non. Avec moi seul, tu peux être libre. Et puisque je te jure d'être gentil à l'avenir, que je déplore toute ma part de tort, que j'ai enfin l'esprit net, que je t'aime bien, si tu ne veux pas revenir ou que je te rejoigne, tu fais un crime. Et tu t'en repentiras de longues années par la perte de toute liberté et des ennuis plus atroces peut-être que tout ce que tu as éprouvé. Après ça, ressonge à ce que tu étais avant de me connaître. Quant à moi, je ne rentre pas chez ma mère, je vais à Paris. Je tâcherai d'être parti lundi soir. Si tu veux m'adresser des lettres, envoie à L. Forain, 289 rue Saint-Jacques, pour Arthur Rimbaud. Il sera mon adresse. Certes, si ta femme revient, je ne te compromettrai pas en t'écrivant, je n'écrirai jamais. Le seul vrai mot, c'est « reviens ». Je veux être avec toi, je t'aime. Si tu écoutes cela, tu montreras du courage et un esprit sincère. Autrement, je te plains. Mais je t'aime, je t'embrasse et nous nous reverrons, Rimbaud. Quelques jours plus tard, le 10 juillet 1873 très exactement, Rimbaud rejoint finalement Verlaine à Bruxelles au domicile de sa mère. Mais il souhaite repartir pour Paris le plus vite possible. Verlaine, ne pouvant supporter l'idée d'une nouvelle séparation, se rend au passage des galeries Saint-Hubert et achète un revolver. Dans sa déposition au commissaire de police, il déclare qu'il souhaitait se tuer. Mais c'est sur son amant qu'il va pointer son arme et tirer deux fois.
Paul Verlaine, colloque sentimental.
Maria Cazares.
Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles.
Rimbaud est blessé au poignet. Après un passage à l'hôpital, il rentre en France, malgré l'insistance et le désespoir de Verlaine. L'auteur des fêtes galantes et des romances sans parole sera condamné à 2 ans de prison. Rimbaud, parti voyager en Europe de l'Est, en Asie du Sud-Est et puis en Afrique, se passionne pour la photographie et travaille dans le transport des marchandises. Il devient même trafiquant d'armes pour le compte d'un Français établi en Éthiopie. Pendant ce temps, à Paris, dans les milieux intellectuels, sa disparition brutale suscite de nombreuses rumeurs. Mais revenons quelques instants sur cette année 1873, celle de la rupture de Rimbaud avec Paul Verlaine. Au mois de juillet, juste après l'incident du revolver, Rimbaud écrit « Une saison en enfer », un recueil de poèmes au titre évocateur, dans lequel l'auteur revient sur ses déceptions sentimentales et artistiques. Paul Verlaine dira de ce livre qu'il est une prodigieuse autobiographie psychologique, écrit dans, je cite toujours, « une prose de diamant ». Voici donc l'ouverture de cet ouvrage qui marque une nouvelle ère dans l'écriture du poète. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui, ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie, pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leurs fusils. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon dieu, je me suis allongé dans la boue, je me suis séché à l'air du crime et j'ai joué de bons tours à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire un dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien où je reprendrai peut-être appétit. La charité est cette clé, cette inspiration prouve que j'ai rêvé. « Tu resteras hyène, etc. » se réécrit le démon qui me couronna de si aimables pavots. « Gagne la mort avec tous tes appétits et ton égoïsme et tous les péchés capitaux. » Ah, j'en ai trop pris. Mais, cher Satan, je vous en conjure, une prunelle moins irritée, et en attendant les quelques petites lâchetés en retard, vous qui aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je vous détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de damnés.
Il y a eu sans doute, dans l'histoire des lettres, de meilleurs poètes que Rimbaud.
Jean Paulhan.
Victor Hugo est plus généreux et plus vaste. Goethe est plus réfléchi. Baudelaire ou Coleridge nous atteignent plus profondément. Pourtant, il n'est pas un poète qui ait autant que Rimbaud préoccupé les hommes. Il est unique. On ne s'est jamais débarrassé de lui.
Restons toujours en enfer avec Rimbaud. Voici un autre extrait de ce recueil « Une saison en enfer ». La Vierge folle, un poème en prose faisant partie de la section intitulée « Délire ». Ce texte a longtemps été considéré comme le témoignage le plus important que nous ayons sur la liaison de Rimbaud et de Verlaine. Le poète serait l'époux infernal et face à lui se tiendrait la Vierge folle, Verlaine. Mais on peut également interpréter ce poème comme un autoportrait de Rimbaud au sein duquel deux aspects de sa personnalité s'affronteraient. L'époux infernal. Écoutons la confession d'un compagnon d'enfer. Ô divin époux, mon Seigneur, ne refusez pas la confession de la plus triste de vos servantes. Je suis perdu, je suis saoul, je suis impur, quelle vie. Pardon, divin Seigneur, pardon. Ah, pardon, que de larmes, et que de larmes encore plus tard, j'espère. Plus tard, je connaîtrai le divin époux. Je suis née soumise à lui. L'autre peut me battre maintenant. À présent, je suis au fond du monde. Oh, mes amis. Non, pas mes amis. Jamais délire ni torture semblable. Est-ce bête ? Ah, je souffre, je crie, je souffre vraiment. Tout pourtant m'est permis, chargé du mépris des plus méprisables cœurs. Enfin, faisons cette confidence, quitte à la répéter 20 autres fois, aussi morne, aussi insignifiante. Je suis esclave de l'époux infernal, celui qui a perdu les vierges folles. C'est bien ce démon-là, ce n'est pas un spectre, ce n'est pas un fantôme. Mais moi qui ai perdu la sagesse, qui suis damnée et morte au monde, on ne me tuera plus. Comment vous le décrire ? Comment vous le décrire ? Je ne sais même plus parler. Je suis en deuil, je pleure, j'ai peur. Un peu de fraîcheur, Seigneur, si vous voulez bien. Je suis veuve, j'étais veuve. Mais oui, j'ai été bien sérieuse jadis et je ne suis pas née pour devenir squelette. Lui était presque enfant. Ses délicatesses mystérieuses m'avaient séduite. J'ai oublié tout mon devoir humain pour le suivre. Quelle vie ! La vraie vie est absente, nous ne sommes pas au monde. Je vais où il va, il le faut. Et souvent, il s'emporte contre moi, moi, la pauvre âme. Le démon, c'est un démon, vous savez, ce n'est pas un homme. Il dit, je n'aime pas les femmes. L'amour est à réinventer, on le sait. Elles ne peuvent plus que vouloir une position assurée. La position gagnée, cœur et beauté sont mis de côté. Il ne reste que froid dédain, l'aliment du mariage, aujourd'hui. Ou bien je vois des femmes avec des signes du bonheur dont moi j'aurais pu faire de bonnes camarades, dévorées tout d'abord par des brutes sensibles comme des bûchers. Je l'écoute faisant de l'infamie une gloire, de la cruauté un charme. Je suis de race lointaine, mes pères étaient scandinaves. Ils se perçaient les côtes, buvaient leur sang, je me ferais des entailles partout le corps, je me tatouerais. Je veux devenir hideux comme un mongol. Tu verras, je hurlerai dans les rues, je veux devenir bien fou de rage. Ne me montre jamais de bijoux, je ramperai et me tordrai sur le tapis. Ma richesse, je la voudrais tachée de sang partout, jamais je ne travaillerai. Plusieurs nuits, son démon me saisissait, nous nous roulions, je luttais avec lui. Les nuits, souvent, ivres, il se poste dans des rues ou dans des maisons pour m'épouvanter mortellement. On me coupera vraiment le cou, ce sera dégoûtant. Oh, ces jours où il veut marcher avec l'air du crime. Parfois il parle, en une façon de patois attendri, de la mort qui fait repentir, des malheureux qui existent certainement, des travaux pénibles, des départs qui déchirent les cœurs. Dans les bouges où nous nous enivrions, il pleurait en considérant ceux qui nous entouraient, bétail de la misère. Il relevait les ivrognes dans les rues noires. Il avait pitié d'une mère méchante pour les petits-enfants. Il s'en allait avec des gentillesses de petite fille au catéchisme. Il feignait d'être éclairé sur tout. Commerce, art, médecine, je le suivais. Il le faut. Je le suivais, moi, dans des actions étranges et compliquées, loin, bonnes ou mauvaises, j'étais sûre de ne jamais entrer dans son monde. À côté de son cher corps endormi, que d'heures, des nuits j'ai veillé, cherchant pourquoi il voulait tant s'évader de la réalité. Jamais homme n'eut pareil vœu. Il a peut-être des secrets pour changer la vie ? Non, il ne fait qu'en chercher, me répliquai-je. Enfin, sa charité est ensorcelée et j'en suis la prisonnière. Aucune autre âme n'aurait assez de force, force de désespoir, pour la supporter, pour être protégée et aimée par lui. Mais que me voulait-il avec mon existence terne et lâche ? Il ne me rendait pas meilleur s'il ne me faisait pas mourir. Tristement dépité, je lui dis quelquefois « Je te comprends ». Il haussait les épaules. J'avais de plus en plus faim de sa bonté. Avec ses baisers, ses étreintes amies, c'était bien un ciel, un sombre ciel, où j'entrais, où j'aurais voulu être laissée, pauvre, sourde, muette, aveugle. Déjà j'en prenais l'habitude. Je nous voyais comme de bons enfants, libres de se promener dans le paradis de tristesse. Mais après une pénétrante caresse, il disait « Comme ça te paraîtra drôle quand je n'y serai plus, parce qu'il faudra que je m'en aille très loin un jour ». Tout de suite, je me pressentais, lui parti en proie au vertige, précipité dans l'ombre la plus affreuse, la mort. Je lui faisais promettre qu'il ne me lâcherait pas. Il l'a faite 20 fois, cette promesse d'amant. C'était aussi frivole que moi lui disant « Je te comprends ». J'ignore son idéal. Il m'a dit avoir des regrets, des espoirs. Cela ne doit pas me regarder. Parle-t-il à Dieu ? Peut-être devrais-je m'adresser à Dieu. Je suis au plus profond de l'abîme et je ne sais plus prier. S'il m'expliquait ses tristesses, les comprendrais-je plus que ses railleries ? Il m'attaque, il passe des heures à me faire honte de tout ce qui m'a pu toucher au monde et s'indigne si je pleure. Hélas, il avait des jours où tous les hommes agissants lui paraissaient les jouets de délires grotesques. Il riait affreusement longtemps. Puis il reprenait ses manières de jeune mère, de sœur aimée. S'il était moins sauvage, nous serions sauvés, mais sa douceur aussi est mortelle. Je lui suis soumise. Ah, je suis folle. Un jour, peut-être, il disparaîtra merveilleusement. Mais il faut que je sache, s'il doit remonter à un ciel, que je vois un peu l'assomption de mon petit ami. Drôle de ménage.
Paul Léoutot.
On l'a qualifié de poète décadent, n'est-ce pas ? C'était sérieusement qu'on disait poète décadent. La langue de Verlaine, non seulement parfaite, mais d'une exactitude parfaite. C'est merveilleux.
Oui, d'ailleurs,
malgré la fluidité, malgré enfin un petit peu les contournements, enfin des merveilleux.
Vous en subissez le charme.
Ah oui, et puis c'est très émouvant.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Depuis le début des années 1880, Verlaine est détruit par l'alcool et les crises de violence. Son écriture s'oriente clairement vers le symbolisme et ce que l'on va désigner comme l'école de la décadence. Voici un poème qui a marqué la nouvelle poésie. Une œuvre polémique qui attaque aussi bien le lyrisme de Lamartine ou de Musset que l'écriture de Théophile Gautier. Ce poème aux allures de manifeste s'intitule « Art poétique » et il est extrait du recueil « Jadis et naguère » publié en 1884. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. Plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise, rien de plus cher que la chanson grise, où l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant de midi, c'est par un ciel d'automne attiédi le bleu fouillis des claires étoiles. Car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance seule fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps. Fuis du plus loin la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de l'azur et tout cet ail de basse cuisine. Prends l'éloquence et tords-lui son cou. Tu feras bien, en train d'énergie, de rendre un peu la rime assagie. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où. Oh, que dira les torts de la rime ? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime ? De la musique encore et toujours, que ton vers soit la chose envolée, qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux et d'autres amours. Que ton vers soit la bonne aventure, éparse au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le thym. et tout le reste est littérature. Et voici pour conclure un poème parmi les plus bouleversants de Paul Verlaine, « Laetit et Errabundi », extrait du recueil Parallèlement, publié en 1889. La santé de Verlaine est au plus bas, il écrit de moins en moins et effectue plusieurs séjours dans les hôpitaux. C'est en 1887 à l'hôpital Tenon qu'il est alerté par une nouvelle qui le bouleverse. Rimbaud serait mort. Cette rumeur, comme beaucoup d'autres, sera bientôt démentie, mais elle a déclenché l'écriture de ce poème. Quant à la mort réelle d'Arthur Rimbaud, elle aura lieu 4 ans plus tard, en 1891. Affaibli par de multiples douleurs à la jambe droite, Rimbaud quitte l'Éthiopie pour Marseille où il sera amputé. Il y meurt le 10 novembre 1891 à l'âge de 37 ans. À travers Laetit et Errabundi, gaze et vagabond en latin, Verlaine évoque avec nostalgie sa vie d'errance avec son compagnon d'enfer. Verlaine qui s'éteint quelques années plus tard, en 1896 à Paris, suite à une congestion pulmonaire. Voici donc ce poème lu par un ami, Clément Hervieux-Léger. Souvenez-vous, il nous l'avait fait découvrir l'année dernière lors d'une émission consacrée à l'amitié, justement, entre Montaigne et la Boétie.
Les courses furent intrépides, comme aujourd'hui le repos pèse, par les steamers et les rapides, que me veut cet atome obèse. Nous allions, vous en souvient-il, voyageurs où ça a disparu, filant léger dans l'air subtil, deux spectres joyeux, on eût cru. Car les passions satisfaites, insolemment, outre mesure, mettaient dans nos têtes des fêtes, et dans nos sens que tout rassure, tout, la jeunesse, l'amitié, et nos cœurs, à que dégager des femmes prises en pitié, et du dernier des préjugés, laissant la crainte de l'orgie et le scrupule au bon ermite, puisque quand la borne est franchie, Ponsard ne veut plus de limite. Entre autres blâmables excès, je crois que nous bûmes de tout, depuis les plus grands vins français, jusqu'à ce pharo, jusqu'au stout, en passant par les eaux de vie qu'on cite comme redoutables, l'âme au septième ciel ravie, le corps plus humble sous les tables. Des paysages, des cités, posaient pour nos yeux jamais là, nos belles curiosités eussent mangé tous les atlas. Fleuves et monts, bronzes et marbres, les couchants d'or, l'aube magique, l'Angleterre, mère des arbres, fille des beffrois, la Belgique. La mer terrible et douce au point brochait sur le roman très cher qui ne discontinuait point notre âme et quid de notre chair. Le roman de vivre à deux hommes, mieux que non pas d'époux modèles, chacun au tas versant des sommes de sentiments forts et fidèles. L'envie aux yeux de Basilic censurait ce mode d'écho, nous dignions du blâme public et soupions du même fricot. La misère aussi faisait rage par des fois dans le phalanstère, on ripostait par le courage, la joie et les pommes de terre. Scandaleux sans savoir pourquoi, peut-être que c'était trop beau, mais notre couple restait quoi ? Comme deux bons porte-drapeaux. Quoi dans l'orgueil d'être plus libre que les plus libres de ce monde ? Sourd aux gros mots de tout calibre, inaccessible au rire immonde. Nous avions laissé sans émoi tous impédiments dans Paris, lui quelques sots bernés et moi, certaines princesses souris, une sotte qui tourne à pire. Puis soudain tomba notre gloire, tels nous des maréchaux d'empire, déchus en brigands de la Loire, mais déchus volontairement. C'était une permission, pour parler militairement, que notre séparation. Permission sous nos semelles, et depuis combien de campagnes, pardonnâtes-vous aux femelles ? Moi j'ai peu revu ces compagnes, assez toutefois pour souffrir, à quel cœur faible que mon cœur. Mais mieux vaut souffrir que mourir, et surtout mourir de langueur. Diable, emporte avec qui la colporte la nouvelle irrémédiable qui vient ainsi battre ma porte. Je n'y veux rien croire, mort. Vous, toi, Dieu parmi les demi-dieux. Ceux qui le disent sont des fous. Mort, mon grand péché radieux. Tout ce passé brûlant encore dans mes veines et ma cervelle, et qui rayonne et qui fulgore sur ma ferveur toujours nouvelle. Mort, tout ce triomphe inouï, retentissant sans frein ni fin, sur l'air jamais évanoui que bat mon cœur qui fut divin. Quoi ? Le miraculeux poème et la toute philosophie, et ma patrie, et ma bohème, mort. Allons donc, tu vis ma vie.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission en partenariat avec le magazine littéraire a été réalisée par Xavier Pestugia avec Célia Dufour à la technique. Merci à Estelle Gap, Laura El Maki et Isor Pisani-Ferry qui l'ont préparée.